Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Cela faisait un moment que les partisans du projet européen n'avaient pas eu l'occasion de se réjouir. Dimanche dernier, la victoire du candidat écologiste Alexander Van der Bellen à la présidentielle autrichienne leur a redonné le sourire. Moins sa victoire d'ailleurs que la défaite de son adversaire Norbert Höfer. La menace d'une sortie de l'Autriche de l'Union est en tout cas pour l'instant écartée. Mais le répit n'aura été que de courte durée. Sans grande surprise pour une fois, le référendum organisé en Italie le même jour a enregistré le succès du non. La réforme des institutions italiennes est rejetée, Matteo Renzi annonce qu'il démissionne, replongeant l'Europe dans un état devenu stationnaire à force de durer, celui du désarroi. Le projet européen ne fait plus recette, la victoire des partisans du Brexit au mois de juin a été un coup de massue, mais un coup précédé d'une longue série d'avertissements. Montée des populismes dans de nombreux pays, contestation de la politique d'austérité imposée au nom de l'Europe, rejet de la Constitution en 2005. On pourrait même remonter au référendum sur le traité de Maastricht en 1992. Le « oui » l'avait certes emporté, mais d'une très courte tête. Alors on le voit bien, invoquer le projet pacificateur européen ne suffit plus aujourd'hui pour emporter l'adhésion. Face à ces remises en cause, l'Union est appelée à se remettre en question. Oui, mais comment ? Oui, mais jusqu'où ? Faut-il refonder l'Europe ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser dans cette émission qui, je le précise, a été enregistrée en fin de matinée. Et la question, nous allons la poser à deux invités. Hubert Védrine, bonjour.
Bonjour.
Ancien ministre des Affaires étrangères, vous présidez l'Institut François Mitterrand et vous publiez aux éditions Liana Levy « Sauver l'Europe », ouvrage dans lequel vous appelez à une conférence refondatrice de l'Union européenne. Et pour discuter avec vous, Jean-Dominique Giuliani, bonjour.
Bonjour.
Président de la Fondation Robert Schuman, vous avez publié aux éditions Ligne de repère, c'était en 2014, mais il y a de nouvelles éditions. Pourquoi et comment l'Europe restera le cœur du monde ? Petit traité d'optimisme. On va voir si vous êtes toujours aussi optimiste fin 2016. Vous avez publié un édito début novembre. Non, il ne faut pas refonder l'Europe. Donc a priori, il peut y avoir, si ce n'est une forte divergence, en tout cas quelques nuances entre vos deux positions. Hubert Védrine, avant de savoir d'abord quelle solution apporter et avant de dresser peut-être même un diagnostic, je voudrais revenir sur les trois catégories de positionnement que vous définissez dans votre ouvrage « Positionnement par rapport au projet européen ». Vous dites qu'il y a des européistes, vous dites qu'il y a des eurosceptiques et vous dites qu'il y a des anti-européens. Alors, ma première question, ce serait dans quelle catégorie vous situez-vous aujourd'hui?
Moi, je suis un eurocritique constructif, on va dire. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire en un mot que ce qui s'est passé à Vienne ne change absolument rien au diagnostic général qui est le mien, que je vais résumer, que c'est une fonction honorifique, président de l'Autriche. Il n'a jamais été question que l'Autriche sorte. Enfin, c'est un non-sujet, en fait. L'interprétation est complètement exagérée. Et l'Autriche n'est pas coupée entre des gens d'extrême droite et des écologistes. C'est absurde. C'est juste un rejet des électorats qui en ont marre de la co-gestion par la droite et la gauche depuis la guerre, en fait. Et ça ne change absolument rien à la situation que je vois comme étant, moi, marquée par un décrochage grandissant des peuples. Ça remonte très loin. Vous avez tout à fait raison de rappeler que Maastricht n'était passé qu'à 1% près, plus les référendums de 2005 rejetés, France, Pays-Bas. Schröder m'avait dit que ça aurait été la même chose en Allemagne. Donc ça vient de très loin. Et c'est vrai que moi, j'additionne les anti-européens, les vrais anti-européens. Par exemple, Marine Le Pen n'est pas eurosceptique, elle est anti, comme les gens qui ont gagné le Brexit après une campagne absurde, mais enfin, ils ont gagné. Pour moi, les sceptiques, c'est des gens qui ne sont pas forcément contre, qui pourraient redevenir pour, à condition qu'on reformule l'ensemble, mais qui sont sceptiques. Après, vous avez les déçus, à qui on a promis que l'Europe ferait ceci et cela, et ils ne sont pas contents. Et puis, tous les allergiques, ceux auxquels Jean-Claude Juncker a le courage de s'adresser quand il dit qu'on a eu tort de réglementer à outrance. Ça fait quand même, il faut varier selon les pays, hein, mais on n'est pas loin de 70 à 80% des gens, les 60% qui s'abstiennent au Parlement européen. Les européistes au sens classique fédéraliste, à mon avis, sont tellement peu nombreux qu'on ne peut pas les compter électoralement, même s'ils sont très présents de façon intéressante dans le débat d'idées. Et les pro-européens classiques, centre-gauche, centre-droit, sont quand même très minoritaires. Donc pour moi, c'est beaucoup plus grave que les réfugiés, les migrants, les provocations de Poutine, celles de Trump et compagnie.
Jean-Dominique Giuliani, pour vous entendre à la fois et sur le diagnostic et sur cette aussi peut-être appartenance à une famille d'Européens. Hubert Védrine nous dit, voilà, les fédéralistes européens, ce sont les européistes. Est-ce que c'est une façon que vous auriez, vous, de vous définir comme européen.
Oui, moi, j'assume totalement. La question, je voudrais l'élargir un peu, parce que je suis assez d'accord sur l'analyse, mais je voudrais l'élargir, parce qu'en fait, toutes les démocraties, toutes les grandes démocraties du monde sont confrontées à ce qu'on appelle un peu rapidement le populisme, qui est parfois du nationalisme, voire de l'extrémisme, parce que c'est la démocratie représentative qui est mise en cause. Et à la limite, si l'Europe est malade, elle est malade de ses États. Comme aujourd'hui, on peut dire que l'élection présidentielle américaine n'a pas donné un résultat tout à fait conforme à ce qu'on pensait de la démocratie américaine. Mais à la limite, on peut élargir, n'est-ce pas ? Toutes les grandes démocraties, on peut parler du Brésil, on peut parler du Japon, on peut parler de l'Inde, elles sont traversées par le même phénomène qui est généré, je crois, par la mondialisation et surtout une explosion technologique, une explosion dans la manière de communiquer et de produire qui bouleverse tout. Alors évidemment, l'Europe est plus fragile que d'autres, d'abord parce qu'elle a un passé nationaliste, un passé de nationalité, un passé d'extrémisme, mais je crois que elle est plus fragile, plus concernée, mais qu'en réalité, elle est même plus concernée par les questions d'immigration et les questions de sécurité qui s'en approchent. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec Hubert Védrine sur sa proposition, non pas de la refonder, parce que je pense que les fondations sont solides, mais de se mettre autour de la table pour, en quelque sorte, réactualiser le projet européen, savoir sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord.
Mais en tout cas, ce que vous nous dites, Jean-Dominique Giuliani, c'est que si l'Europe va mal, ça n'est pas un mal européen, c'est un mal plus global.
Je pense que dans la question, le sujet populisme, la part européenne est infime. Elle existe, il y a des réformes à mener, mais que c'est d'abord à Paris, à Rome, à Vienne, à Berlin, à Londres, que les questions de gouvernance se posent. Si le 23 juin dernier, les Britanniques ont voté pour le Brexit, c'est d'abord contre Cameron, contre une certaine politique et contre la manière de traiter la question migratoire avant même de parler d'Europe.
Hubert Védrine, si l'Europe va mal, c'est parce que les États vont mal et c'est parce que le monde dans son ensemble, les démocraties représentatives vont mal ?
J'ai une nuance, là, tu n'as pas une divergence. Je suis d'accord pour dire qu'il y a un cadre plus large. Et que dans l'ensemble des démocraties occidentales et assimilées, les peuples se révoltent. Je parlais d'insurrection électorale, les classes populaires, les classes moyennes, parce qu'ils se sentent en gros abandonnés et non représentés. Ça, c'est vrai partout. Je pense que dans le cas européen, c'est plus qu'infime quand même la dimension. Et je crois que les élites qui, avec les meilleurs sentiments du monde, ont conduit le mouvement depuis quelques décennies, ne se sont pas résignés à ce qu'il soit normal de la part des peuples de vouloir garder une certaine identité, un certain niveau de souveraineté, et d'autre part, être en sécurité. Il y a une sorte d'arrogance, disons, des élites qui balayent ça en disant que c'est répugnant comme demande. Du coup, ça va vers des formes extrêmes, alors que, à mon avis, ça pourrait être entendu et canalisé vers des réponses raisonnables. Donc là, la nuance, je pense, c'est un peu plus qu'infime, mais que le résultat est le même, c'est-à-dire que la fragilité européenne, c'est qu'elle a assuré, a affronté, a assumé le choc des deux additionnés. Alors après, on entre dans l'ordre des propositions.
On va y arriver aux propositions que j'adresse encore
un
instant.
Déjà abordé
je suis
sur
d'accord
le
avec ça, je ouais. suis totalement d'accord
Jean-Dominique
avec
Giuliani, c'est vrai qu'il y a quand même une spécificité de l'Union européenne qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, c'est-à-dire que cette construction, elle s'est faite aussi, alors au prix, sans que s'il y ait une connotation péjorative dans ce que je dis, mais de transfert de souveraineté, ça en fait quand même un élément spécifique qui peut quand même avoir une vraie cause plus qu'infime, justement,
oui,
pour le malaise du moment.
Absolument, mais la cause se trouve, à mon avis, majoritairement dans les capitales. J'assume totalement, si vous voulez, ma part d'idéalisme européiste. Hein, je l'assume totalement. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été ratées. Mais allons un peu plus loin. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Hubert Védrine. Je vais un peu plus loin. Ce n'est pas seulement une distinction entre peuple et élite. Lorsque Mario Monti appelle à voter contre le référendum de Renzi, il n'incarne pas le peuple.
Non, c'est un jeu italien, ça.
Bon, ouais. Voilà, c'est un jeu italien. Lorsqu'une partie des businessmen britanniques appellent à voter pour le Brexit, ce ne sont pas des gens qui...
Vous n'êtes pas d'accord pour dire qu'on additionne les deux niveaux de pathologie ?
Alors oui, on les additionne, et c'est vrai que le deuxième niveau européen d'une démocratie à deux niveaux qu'on essaie d'inventer de manière un peu tragique et difficile, avec maladresse, je le reconnais, complique encore la donne. Mais si vous voulez, les élites elles-mêmes les élites nationales, elles ont largement démissionné aussi, parce qu'elles auraient pu prendre l'initiative de Paris ou de Berlin de transformer la politique de concurrence, de faire en sorte qu'il y ait une vraie politique d'immigration commune. Et là, on se retrouve, parce que moi je sais bien que c'est à partir d'accords des États qu'on peut sauver l'Europe. Et là-dessus, je crois qu'on se rejoint, ce qui est quand même assez nouveau, parce que je viens d'une famille plus communautaire, etc. Je vois bien qu'au stade où on en est, s'il n'y a pas une initiative à Paris, à Berlin, à Rome, on ne gérerait pas une Europe renouvelée.
Il y aurait davantage que la défaillance des élites. Ce que vous mettez aussi en cause, c'est ce que vous appelez un catéchisme européiste qui a consisté finalement à asséner le fait que l'Europe, c'était forcément la paix, que l'Europe était au centre du monde, et refuser de voir qu'il pouvait y avoir des alternatives à ce projet de toujours plus d'Europe.
Oui, moi, je n'ai pas dit alternative au projet européen, puisque j'y reste fidèle. Mais c'est simplement le fait d'avancer quoi qu'il arrive en ne tenant pas compte des peuples. En fait, il y a les deux niveaux, parce que quand Schäuble, le ministre allemand, dit c'est quand même difficile de ne jamais tenir compte des peuples. Il ne parle pas spécialement du gouvernement allemand. Il parle de l'ensemble de la machine européenne et nationale. Quand Juncker dénonce la réglementation à outrance, je sais bien qu'elle était très alimentée par la France, qui de tous les États membres est le pays qui a le plus demandé qu'on fasse au niveau européen des réglementations extravagantes à la française. Il y a une combinaison des deux, mais en même temps, il sait très bien que c'est sa propre machine. Il le dit sans arrêt. D'ailleurs, quand il dit ça, la machine communautaire est furieuse contre le président de la Commission. Donc pour moi, il y a les deux niveaux. Il faut qu'on s'attaque aux deux. Alors moi, mon idée par rapport à ça, c'est que, d'ailleurs, l'expression a été contestée, mais dans mon petit plan, là, je dis qu'il faut commencer par une pause. Non pas que je veuille arrêter tout ça. De toute façon, on ne peut pas. Et je suis pour l'urgence de faire un Schengen, refaire un Schengen qui marche. Mais la pause, c'est psychologique. Au lieu qu'il y ait un système qui dit on arrive, quoi que votent les gens, et on s'en fiche complètement parce que les électeurs sont nuls, le système s'arrête en disant on écoute. On comprend qu'il y a des demandes qui sont légitimes auxquelles on va essayer d'apporter une réponse.
Mais ça veut dire quoi, faire une pause concrètement? Ça veut dire on n'intègre plus de nouveaux pays, arrête aussi des processus.
Je ne parle pas de la pause dans l'élargissement, on y est déjà. On verra plus tard.
Donc c'est une pause dans quoi alors?
La pause dans l'intégration. Je note d'ailleurs que le président allemand, M. Glock, qui n'a pas le pouvoir mais qui a du prestige, vient de reprendre cette idée. Pause dans l'intégration. Pour dire au peuple, ce n'est pas simplement un engrenage, un rouleau compresseur. On s'arrête un instant pour réfléchir à la façon dont on peut se réorganiser. Je peux tout à fait admettre l'idée de votre critique sur le mot refondation, parce qu'au fond, les fondations sont historiquement légitimes, elles sont bonnes. Mais à part ce mot, je pense qu'il faut repenser. Et là où je suis provocateur dans mon plan, c'est que moi j'appelle à une conférence des gouvernements volontaires, comme à Messine en 1955, sans les institutions européennes dans un premier temps, parce qu'elles sont trop jugées parties. Alors je sais que c'est provocant et difficile, mais c'est pour faire comprendre intellectuellement que les gouvernements, comme vous venez de souligner, leur responsabilité par défaillance à plusieurs reprises, je voudrais les re-responsabiliser en disant, plus que vous plaignez du fait que l'Europe s'occupe de tout et de n'importe quoi dans tous les sens, on va redéfinir. En gros, c'est plus une usine à faire des directives sur les concombres, les chasses d'eau et les prises électriques, mais elle va s'occuper de deux ou trois grandes choses. C'est quoi les grandes choses?
On va y aller sur les grandes choses, Hubert Védrine, si vous voulez bien, mais déjà sur la pause.
Alors,
la pause,
Jean-Dominique Julien,
est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Au risque de vous surprendre, ça me plaît beaucoup. Parce que, comme je dis que l'Europe est malade de ses États, je constate, comme vous, je crois, que finalement, ce qui a porté le plus atteinte à l'Europe, c'est une sorte d'indifférence des gouvernements nationaux qui ont laissé rouler au fil de l'eau une mécanique qui est devenue une mécanique bureaucratique, réglementaire, productrice de normes, etc. Et que finalement, on a fait l'euro, puis après on a posé le sac et on est bien là.
Mais la Commission et la Cour de justice continuent.
Mais évidemment, parce qu'on leur en a confié la tâche. Ils sont pas illégitimes.
Oui, parce que dans ce cas-là, Hubert Védrine, la pause, elle est pour tout le monde.
Oui, c'est pas juste pour les États. Mais moi, je suis d'accord. Non, la pause est pour tout le monde. C'est aux États de dire ce qu'ils veulent. Voilà. Parce que c'est encore le cadre d'exercice de la démocratie. Et ça ne me gêne pas si vous n'invitez pas la Commission à votre conférence de Messine bis, parce que moi je veux savoir ce qu'on pense à Berlin, ce gouvernement ou le prochain, ce qu'on pense à Paris, le gouvernement ou le prochain. Je ne le sais plus, je ne sais plus quelle est la politique européenne de la France aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est...
Ni d'aucun des autres.
Voilà, c'est de laisser aller. C'est de laisser aller, on a mis en place une mécanique, et moi ça me perturbe autant que vous, dans la mesure où je vois bien le désamour des peuples, et je vois bien même la désaffection des élites qui disent ça ne peut plus continuer comme ça. En attendant, personne ne propose rien. Et je suis totalement d'accord pour mettre tout le monde autour de la table, au moins les volontaires, vous avez parfaitement raison, pour leur dire qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'on fait en matière économique, qu'est-ce qu'on fait en matière de sécurité. Et là, on peut repenser quelque chose de beaucoup plus solide, et donc j'adhère totalement à la proposition du Hubert Védrine sur ce point.
Encore un instant, Jean-Dominique Giuliani, est-ce que cette pause, elle peut aller jusqu'à reposer la pertinence du projet européen? On va être bientôt au 60e anniversaire du traité de Rome, ce sera en mars 2017, donc ça arrive bientôt. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se demander, repartir de la base et se dire, est-ce que c'était vraiment pertinent d'avoir ce projet? Ou bien est-ce que là, on est dans l'absence d'alternative, justement, dire, il ne peut pas y avoir autre chose qu'un projet européen fédérateur, quitte à faire une pause, quitte à revoir un peu les attributions entre les pays et les institutions?
Non, je crois que Hubert Védrine l'a dit plus clairement que je ne le dirai. L'idée de rapprocher les peuples d'Europe, c'est une idée qui est totalement pertinente au XXIe siècle, période d'État-continent par excellence.
Donc ceux qui la contestent ne sont pas pertinents?
Non. Alors après, on peut diverger ou avoir des nuances sur les méthodes. On a fait l'Europe à l'envers parce qu'on ne pouvait pas la faire à l'endroit dans les années 50. On l'a fait à l'envers en partageant les intérêts communs, ce qui a donné cette réglementation, etc.
Surtout après le marché unique.
Voilà. Mais aujourd'hui, on voit bien, tant en matière économique qu'en matière de sécurité, ce qui est encore plus grave, ce n'est que de la volonté des capitales, avec des peuples, de manière démocratique, que peut rebondir ce projet en prenant les sujets d'actualité et en les traitant et en offrant une vision. Et la vision peut être différente, n'est-ce pas? Et c'est là où on commencerait à parler de la répartition des compétences. On dirait, qu'est-ce qu'on peut faire en commun et déléguer à une autre instance que nos gouvernements? Et qu'est-ce qui relève de nous? Et comment on s'y prend? Parce que le plus grand adversaire de l'Europe, c'est l'indifférence des États membres. Cette indifférence a conduit à la situation actuelle. Et donc, ce n'était pas le cas quand Hubert Védrine était aux affaires avec François Mitterrand, qui n'était pas indifférent au sujet européen. Ça ne veut pas dire qu'il était d'accord tout le temps avec la Commission ou avec Berlin.
Hubert Védrine, vous qui dites donc qu'il faudrait faire une pause, il faudrait d'ailleurs aussi l'assumer, c'est-à-dire pas que ce soit une pause honteuse, mais affirmer clairement qu'on fait une pause et qu'on dit au peuple européen...
C'est une pause momentanée d'écoute démocratique.
Voilà, mais on dit au peuple européen, on vous écoute. Est-ce que vous avez la certitude que les peuples européens, justement, ne remettent pas en cause la pertinence du projet européen? Et si, après les avoir écoutés, ce qu'il ressort, c'est que, finalement... ce projet-là, il n'emportait peut-être pas l'adhésion populaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Je ne crois pas du tout.
Pourquoi?
C'est pour ça que je distingue, d'ailleurs, dans mon analyse des critiques, les vrais anti-européens, pour des raisons idéologiques de fond, qui ne changeront pas. Alors que tous les autres que j'ai énumérés, à mon avis, peuvent être reconvaincus par une opération telle que celle que nous dessinons ensemble ce matin.
Les vrais anti-européens, c'est ceux qui, apparemment, électoralement, en tout cas, on le voit en poupe aujourd'hui.
Non, mais ils sont forts partout, mais ils sont majoritaires à peu près nulle part, sauf dans le cas du Brexit, et encore, personne ne sait quelle sera la situation. Et Grande-Bretagne, Europe, dans un an ou deux, bon, là-dessus. Mais ils sont forts, mais vous ne les ferez pas changer d'avis chez nos positions, mais d'ailleurs, aucun d'entre eux, tous ceux qui veulent carrément, complètement sortir et arrêter, n'est capable de dessiner un plan viable. C'est évident, ils sont à peu près dans le même état que les vainqueurs du Brexit, qui n'avaient aucune espèce d'idée de ce qu'il fallait faire après.
Oui, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de plan B qu'il n'y a pas de possibilité.
Ils ne sont pas majoritaires non plus. D'ailleurs, l'affaire Brexit n'a pas entraîné d'effet de contagion. En revanche, tous ceux qui sont, je reprends, devenus simplement sceptiques, ou déçus, ou allergiques, tout cela, si on leur parle autrement, si les élites arrêtent ce ton de mépris, si on n'a pas le sentiment qu'il y a une machine inexorable, qui n'écoute rien, ne s'arrête jamais, au bout du compte, après une opération telle qu'on l'a définie par synthèse, une conférence qui, avec les gouvernements volontaires, qui redéfinit les rôles, de quoi l'Europe doit cesser de s'occuper, mais de quoi elle doit s'occuper mieux, à la sortie de tout ça, vous pouvez reparler au peuple. Vous avez quelque chose à dire. Et moi, j'ai pas tellement de crainte si on y arrivait. J'ai beaucoup de crainte sur la capacité du système à se repenser comme ça, mais je vois pas de signe que les peuples veuillent se abandonner tout ça. Si on dit au peuple, on va s'en remettre à l'Europe parce qu'on est trop petit, trop vieux, nul, fatigué, ils sont pas d'accord. Mais abandonner l'idée que l'union fait la force entre Européens par rapport aux Russes, aux Chinois et à Trump, je pense qu'il y a une majorité pour suivre ça. Si on reformule.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Faut-il refonder l'Europe? C'est la question que nous posons aujourd'hui à Jean-Dominique Giuliani, qui préside la fondation Robert Schuman, et Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui publie « Sauver l'Europe » aux éditions Liana Lévy. Donc, le diagnostic est globalement partagé entre vous deux, même si voilà, le niveau de responsabilité de l'Europe dans ce malaise actuel est un petit peu différent entre vous. Vous êtes d'accord pour faire une pause, pour aller vers une conférence, alors une conférence refondatrice en tout cas, avec des États volontaires qui accepteraient de réaménager les attributions aux institutions européennes et aux États, puisqu'il faut écouter le peuple. Est-ce que il faut lui donner aussi, ou donner aux peuples européens, des gages, Jean-Dominique Giuliani, en redonnant des missions aux États qui avaient été attribuées aux institutions européennes? Est-ce qu'il faut faire du transfert de souveraineté, mais dans l'autre sens?
Et il faut que les États se réengagent dans le projet européen. Ils ont été trop longtemps indifférents. Et un réengagement véritablement démocratique.
Vous voulez dire quoi? C'est pas les institutions qui ont pris de la souveraineté, c'est les États qui se sont laissés déposséder?
Qu'on ait des politiques nationales assumées devant les parlements nationaux, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le cas. Alors, la différence entre la France et l'Allemagne, par exemple, pourquoi les Allemands sont moins violents à l'égard du projet européen, c'est que chaque fois qu'il y a un Conseil européen, Madame Merkel vient avant au Bundestag, vient après pour rendre compte. Les choses sont sur la place publique. En France,
Gouvernement de coalition.
Voilà, plus le gouvernement de coalition. On est en difficulté parce que ça permettra de poser des sujets modernes et d'actualité.
Oui, mais Jean-Dominique Giuliani, pardonnez-moi, ce sont quand même des politiques qui sont extrêmement contraintes par les règles européennes, par exemple la politique budgétaire.
Laissez-moi vous répondre. Vous parlez de souveraineté. Je viens de tenir un petit séminaire à Bruxelles avec des gens de toutes origines pour essayer de voir ce qu'était la souveraineté au XXIe siècle. Comment on peut la qualifier? Vous vous apercevez que les plus souverainistes vous disent que, bien sûr, dans la souveraineté dont la définition c'est « je suis maître de décider sur un espace donné », eh bien, que c'est de moins en moins vrai, que vous devez avoir une part de coopération, tout le monde le comprend, que vous devez travailler avec vos voisins, que vous devez, par exemple, les militaires aujourd'hui n'envisagent pas d'intervenir à l'extérieur, même de manière souveraine, sans collaborer avec leurs collègues des pays les plus proches, etc., etc. Donc là, la souveraineté elle-même, la définition de la souveraineté, est en train d'être modifiée, élargie. Bien sûr, les gens y sont attachés, moi aussi d'ailleurs. Ça, ce sont des débats qui ne peuvent se tenir que de manière démocratique, légitime et transparente devant les peuples. Et ce n'est qu'une fois qu'on aura une réflexion un peu plus moderne et assumée devant les gens qu'on pourra leur dire bah, « Écoutez, pourquoi la France doit-elle toujours travailler avec l'Allemagne ? Parce qu'elle est plus forte quand elle se met d'accord. » Voilà. Bon. Et à ce moment-là, on arrive à des choses basiques et on retrouve la voie démocratique et l'adhésion.
Hubert Védrine, est-ce qu'il faut redonner de l'autonomie, si ce n'est de la souveraineté, aux États? Autonomie qui aurait été...
Mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Giuliani. D'abord, il faut arrêter les formules du genre « abandon de souveraineté ». Les peuples, ça les rend furieux. Ils ont compris que ce n'était pas perdu pour tout le monde et que c'est les marchés devenus eux-mêmes fous qui avaient récupéré. Donc c'est un mauvais thème. Transfert aussi, il faut faire gaffe. Exercice de la souveraineté en commun, c'est ce que vous venez de dire, parce qu'on ne veut pas perdre toute souveraineté. On ne veut pas être dépendant des décisions prises ailleurs. Et en même temps, on est interdépendant. Donc il y a une réponse. Il y a un travail sur les mots à faire, vous savez, dans cette affaire européenne. Et ça fait partie du travail, justement, pour reconvaincre l'ensemble des sceptiques. Là, les gentils diront non, on veut pas. Mais les autres, on peut leur parler. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que on n'a peut-être pas à décider, même dans la conférence que je suggère, qu'on va restituer telle ou telle compétence en bloc et en masse aux États-nations. Mais en revanche, si les États se réengagent, comme vous le dites, s'ils affirment leur politique, si elles sont démocratiquement assumées pays par pays, c'est évident que la Commission va moins déborder. Moi, j'ai connu tous les chanceliers allemands, en fait, en privé, se plaindre des débordements de la Commission. Tous. Puis la Cour de Karlsruhe surveille ça de très près. Plus de transfert de souveraineté. Mais la réponse allemande, c'est celle que vous avez indiquée. Et quand Mme Merkel arrive, elle est forte, parce qu'il y a eu la réunification grâce à Gorbatchev, parce qu'il y a eu les réformes grâce à Schröder, enfin, c'est elle qui est forte. Et les autres en tiennent compte. C'est un réengagement de l'État. Qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil? Donc en fait, on se retrouve assez dans la méthode, et c'est comme ça qu'on arriverait à dire que finalement, par carence des États membres, par lâcheté ou double jeu, la Commission était beaucoup trop loin par simplement débordement bureaucratique, et que donc la place se reconstitue.
Mais est-ce que vous, à titre personnel, Hubert Védrine, vous seriez d'accord pour que soit, alors je vais essayer de changer de vocabulaire, réattribuer des compétences aux États compétences qui avaient été dévolues aux institutions européennes.
Dans certains cas, oui.
Par exemple.
Mais quand ça avait été demandé aux Anglais qui faisaient cette demande, qui n'est pas absurde en soi, ils avaient eu du mal eux-mêmes.
Mais eux-mêmes n'ont pas trouvé.
Ils n'ont pas trouvé. On ne va pas y arriver par grand bloc.
C'est votre question qui n'est pas la bonne, si je peux me permettre, amicalement.
Vous savez pourquoi je pose cette question ? C'est parce que dans le livre d'Hubert Védrine, j'ai découvert, je me souvenais pas du tout qu'il y avait eu ce sommet-là en décembre 2001, le sommet de Laeken, dans lequel il avait été question justement de réfléchir à l'avenir de l'Union européenne et de restituer certaines tâches aux États membres. Donc ça, c'est quelque chose qui a existé. Donc c'est pas moi qui l'invente.
Mais c'est parce qu'il ne les exerçait pas. Si vous prenez le cas aujourd'hui de l'immigration, ce n'est pas une compétence européenne.
Oui.
Ce n'est pas une compétence européenne. Les États ont voulu la garder. En matière de fiscalité, c'est pareil. En matière de défense, on peut en parler, c'est pareil.
En matière de budget.
Mais oui, mais enfin, est-ce que pour l'immigration, franchement, si on veut faire face à cette énorme question migratoire qui est devant nous, en réalité, ce n'est que Paris, Berlin, Rome, Athènes et Madrid qui peuvent se mettre d'accord pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent harmoniser dans leur propre politique nationale, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, et la Commission européenne ne peut pas le faire. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne fait que des succès d'année. Et avec Juncker, pardonnez-moi, elle le fait plutôt bien de manière politique, sans gêner les États, mais naturellement, tout corps administratif que vous créez, la tendance à empiéter. Donc si les États...
Moi je suggère que Bouton relise ce qu'on avait dit à Laeken. C'est incroyablement intéressant, parce qu'on dit à Laeken au Conseil européen, certains Européens considèrent que leur identité, on n'est pas peur du mot, est mise en cause par la forme qu'a pris la construction européenne. Alors, depuis, on n'a rien fait. Mais là, on est en train de progresser en termes sémantiques, puisque moi, je reconnais que la formule de Jalini est meilleure. On n'est pas obligé de restituer des pans, parce qu'on ne va pas changer les traités, on ne va pas se lancer une bagarre sur les traités. Mais si, dans chaque domaine où une compétence a été donnée à l'Europe, au lieu que la Commission soit toute seule, et la Cour de justice qui verrouille derrière, eh bien que les États se réengagent et qu'ils assument leurs responsabilités, et la répartition se fera comme ça.
En tout cas, vous dites, rien ne s'oppose aujourd'hui à ce que les États se réengagent. C'est-à-dire, rien ne s'oppose dans les institutions européennes.
Non, rien ne s'y oppose, et moi je le souhaite.
Et c'est ce qui manque.
Je le souhaite. Et ça aboutit au même résultat que ce qui avait été espéré à Laeken sans que ce soit fait, et que ce que je suggère dans le petit bouquin. Et ça redonne de l'oxygène démocratique en plus dans chaque pays. Le sentiment que la machine européenne va tout vampiriser se calme, si on procède comme ça.
Absolument.
Ça redonne de l'oxygène démocratique, tout dépend, puisque ce que vous suggérez par rapport à cette conférence refondatrice, même bon, si là aussi
les mots pourraient être différents. Je suis prêt à changer le mot.
Voilà. Bon, en tout cas, sur cette conférence qui pourrait rappeler, en tout cas, voilà, celle de Messine en 55, voilà. Donc, cette conférence, si j'ai bien compris, elle se ferait sur la base du volontariat, dans un premier temps, sans avoir des représentants des institutions européennes, mais simplement les États. Mais ça veut dire qu'il y aurait aussi des pays qui appartiennent à l'Union européenne qui pourraient ne pas participer à cette question. Et donc, est-ce que ça risque pas de donner l'idée qu'il y a deux niveaux d'Européens et deux niveaux d'appartenance à l'Union européenne, Jean-Dominique Giuliani ?
Non, pas du tout. Vous voyez, prenons, il faut prendre les urgences, je crois. Les urgences, moi j'en vois au moins deux, il y en a plein d'autres. J'en vois une, c'est l'urgence sécuritaire.
Schengen.
Voilà. Et la deuxième, c'est l'urgence migratoire.
Ça, à 27, ça peut pas fonctionner.
C'est la même.
Vous avez Schengen qui peut gérer les frontières.
Je parlais sécurité, défense.
Défense, c'est autre chose. Vous avez fait une proposition de traité.
Voilà.
Qui est très intéressante. Qui n'est pas du tout, d'ailleurs, conceptuellement communautaire, mais c'est d'autant plus méritoire et réaliste.
Elle n'est pas du tout communautaire, même. C'est la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne qui feraient un traité au sein de l'OTAN, si j'ai bien compris, c'est ça.
Qui ferait un traité reconnaissant l'OTAN et reconnaissant la capacité des Européens qui le veulent à s'organiser.
L'embryon du pilier européen de l'Alliance qui n'a jamais existé.
Et surtout qui engage à la fois le Royaume-Uni, même s'il sort de l'Union européenne, et l'Allemagne qui veut faire des efforts et qui est contrainte par sa constitution, son histoire, etc. Et la France étant au milieu, en matière de défense, relativement exemplaire.
C'est très intéressant et c'est beaucoup plus utile que tous les discours creux sur l'Europe de la défense, parce que ça place alors précisément les gouvernements devant leurs responsabilités. Et ça n'enlève rien aux institutions européennes qui n'ont aucune compétence dans ce domaine.
Alors, voyez, par exemple, ça c'est typique, vous allez comprendre pourquoi nous sommes d'accord, à votre grande surprise, j'ai bien compris.
Pas forcément.
En matière de défense, les traités eux-mêmes, le traité de Lisbonne, dit que la Cour de justice, la Commission n'a pas compétence, et le Parlement européen non plus. Moyennant quoi, comme les États ne font rien, la Commission avance à pas compter, c'est le rôle de tous les fonctionnaires de qualité, et dit on va harmoniser les marchés européens de défense. Foutaise. Ça ne marche pas. Et c'est un Européen qui vous le dit. Ça ne marche pas. Alors qu'il faut faire des appels d'offres pour savoir si une société bulgare va fournir des chars à la France. Enfin, on croit rigoler.
Enfin, non, c'est surtout la concurrence entre la France et le Royaume-Uni aujourd'hui qui pose problème sur l'harmonisation des marchés de défense.
Pas du tout. Je vous signale quand même que nous avons un accord assez fort avec les deux accords de Lancaster House avec le Royaume-Uni et qu'on a même un corps de 10 000 hommes déployables, etc. Non, non, non.
Donc ceux qui se sont réjouis de Brexit en disant ça va peut-être permettre d'avancer dans cette Europe de la défense.
Non, c'est n'importe quoi. Ça.
Hubert Védrine ?
C'est n'importe quoi.
On ne fera
pourquoi
pas.
Pourquoi c'est n'importe quoi ?
Parce que c'est jamais la position britannique qui a empêché personne d'avancer. Quand les Européens voulaient faire quelque chose, genre Schengen ou Euro, ils ont avancé, et c'est pas la Grande-Bretagne qui a gêné.
Donc c'était une bonne excuse qu'on trouvait pour ne pas avancer ?
D'autre part, en matière de défense, la réalité c'est que tout le monde est dans l'Alliance, que les institutions européennes n'ont pas de compétences, vous venez de le rappeler, et qu'on a une relation bilatérale forte, France-Grande-Bretagne, Lancaster House, qui demeure quelle que soit l'issue du Brexit. Ça change rien. On a une relation forte, mais moins substantielle avec l'Allemagne. Et donc, vous proposez de fabriquer un triangle qui serait l'embryon de la suite. Très bien, très bien. Voilà une position ambitieuse et en même temps très réaliste.
C'est réaliste.
Finalement, si on peut continuer à travailler avec le Royaume-Uni, tout en avec un pays qui est en dehors de l'Union européenne, mais vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire, à quoi servent ces institutions européennes à 27 ? Pourquoi ne pas plutôt...
Elles ont plein d'autres utilités. Elles ont plein d'autres utilités. Il y a des choses que... on ne va pas réunir les chefs d'état-major pour gérer la taille des concombres ou des choses comme ça, ou gérer le marché intérieur. Donc là, on parle quand même de sécurité, de défense, c'est-à-dire quand même quelque chose d'assez essentiel et vraiment régalien au sens français du terme. Donc là, si vous voulez, chaque fois que l'Europe a créé quelque chose, y compris dans le cadre communautaire, ça a commencé par des volontés nationales qui se sont rencontrées. Moi, je fais du Robert Schuman dans le texte. Il a dit il faut préserver les identités, surtout ne pas froisser les identités des peuples parce qu'ils y sont attachés. Et puis, c'est la volonté des États qui permettra ensuite de créer
quelque
chose.
Vous allez plus loin, si je puis me permettre, cher ami. Parce que c'était un atlantiste convaincu.
Oui.
Donc, il n'a jamais raisonné en termes de pôle européen de puissance. En réalité, ce n'était pas son projet.
C'était l'époque aussi.
En plus, l'époque. Non, mais je fais pas d'anachronisme. Mm-hmm. Mais dans votre projet, là, d'accord à trois, vous allez plus loin. Mm-hmm. Vous êtes inspiré par la démarche, mais c'est plus ambitieux.
Absolument.
Et répétons-le, parce que les gens confondent souvent, ça n'enlève rien aux institutions européennes qui n'ont aucune compétence dans ces domaines.
Est-ce qu'au sein de l'Union européenne, il peut y avoir d'autres groupes de pays en dehors du fameux couple franco-allemand, qui peuvent aussi prendre des initiatives
pour participer. Il n'y a plus de couple franco-allemand.
Alors, il n'y a plus vraiment.
Depuis la réunification, il n'y en a plus.
Bon, en tout cas, est-ce qu'il peut y avoir d'autres groupes de pays? Parce qu'on en revient quand même toujours et aux membres fondateurs. Et il y a aussi peut-être une forme d'arrogance, d'ailleurs, dans le fait de considérer que c'est à travers Paris, Berlin, voire Londres, que l'Europe avance. Il y a d'autres pays aussi qui en font partie.
C'est la réponse à la problématique que pose Hubert Védrine dans son excellent ouvrage que je recommande à tout le monde. Comment on s'intègre? Si on veut rapprocher les peuples d'Europe, comment s'intègre-t-on? On a mis une mécanique en place qui a marché 60 ans, qui a eu des résultats. Aujourd'hui, l'intégration, elle se fait par l'exemple. Voilà comment elle doit se faire. C'est-à-dire, si par exemple, on doit avoir une politique d'immigration commune, il faut que Paris, Rome, Athènes montrent l'exemple. Berlin, bien sûr, montre l'exemple. Et à ce moment-là, vous verrez que si ça marche et si c'est efficace, d'autres rejoindront.
Bah, sur l'immigration, pardonnez-moi, mais Angela Merkel était censée avoir donné l'exemple il y a quelques mois de cela.
Non,
on
ne
peut
non,
pas
non,
dire que dans l'Europe, dans les pays d'Europe de l'Est, par exemple, mais pas seulement, l'exemple a été particulièrement suivi.
Elle a donné quel exemple? Pas l'exemple de la coopération européenne, enfin. Donc il y a un statut allemand, on peut en parler si vous voulez, qui est assez généreux pour les réfugiés, etc. Puis elle a ouvert la porte. Non, le réflexe européen, ça aurait été de demander à Paris ce qu'ils en pensaient, et à Rome s'ils étaient d'accord. Même aux Autrichiens qui ont vu passer des immigrés.
Et de ne pas négocier toute seule en catastrophe
avec
le Turc.
Et de ne pas négocier toute seule. Donc voilà, l'exemple, l'exemplarité de la démarche. C'est ça qui va permettre à l'Europe de rebondir si on arrive à la créer.
Mais cette exemplarité, elle peut venir des pays baltes, de la Hongrie, de la Bulgarie, du Danemark, je ne sais pas, Hubert Védrine.
En théorie, oui, rien ne s'y oppose.
Non, pas autant de
si
poids.
Ça a lieu, tant mieux, mais ce n'est pas le cas.
Il n'aura pas autant de poids que si ce sont les grands pays. La France et l'Allemagne, c'est 47% des droits de vote à la BCE. L'Italie, c'est la troisième puissance économique de l'euro. Donc, si ce sont les grands pays qui montrent l'exemple, ça veut dire que c'est possible pour d'autres aussi.
Et vous savez, les autres pays l'attendent, ça, en fait. Quand ça marche très bien entre la France et l'Allemagne, même s'il n'y a plus la rhétorique lyrique sur le couple, ben les autres pays sont plutôt contents. Quand ça marche pas, ils sont plutôt frustrés et déçus. Ils s'organisent parfois par petits groupes pour défendre leurs intérêts spécifiques, mais il y a une vraie attente qui est quelque part un moteur. Donc ça ne choque pas, il ne faut pas développer à Paris une rhétorique infondée, en réalité, sur le fait qu'il y a une sorte d'inégalité injuste. Bon. Puis on ne peut pas revenir non plus aux membres fondateurs, parce que du coup, il n'y a pas l'Espagne, il n'y a pas la Pologne. Il faut trouver une autre formulation, et la réponse, je crois, elle est par grands sujets et grands objectifs. Par exemple, la reconstruction d'un Schengen qui marche, qui traite intelligemment l'asile d'un côté, les mouvements migratoires de l'autre, avec les pays de départ. Ça, c'est un objectif qui concerne presque tous les pays d'Europe, et c'est là-dessus que beaucoup de choses se jouent. Vous voyez, on traite sujet par sujet, et là, il n'y a pas de raison que les peuples soient a priori hostiles.
Alors, traiter sujet par sujet, justement, Hubert Védrine, est-ce que ça veut dire qu'à l'issue de cette conférence que vous appelez de vos voeux, bah, qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce qu'il y a un texte? Est-ce qu'il y a, par exemple... Non, mais est-ce que, bah, si vous l'appelez de vos voeux, c'est que vous avez une petite idée de ce que vous souhaiteriez aussi pour l'Europe? Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau traité, par exemple, européen, qui soit soumis à référendum à l'ensemble des électeurs
européens?
Nouveau
traité, soyons très prudents. Enfin, en tout cas, dans l'état actuel des choses, n'importe quel référendum isolé est une machine à perdre. Les gens sont contre, quoi qu'il arrive, par populisme global, anti-représentation et compagnie, plus sujet européen. En revanche, si le processus que nous dessinons ensemble fonctionnait, là, on crée une situation totalement nouvelle. Totalement nouvelle en Europe, qui se compare à rien depuis quasiment les origines. Si on propose quelque chose qui est de nature à retrouver un consensus de l'ensemble des peuples, là, ça vaut peut-être le coup, mais je dis avec prudence, on n'est qu'en 2016, ça parle de l'avenir, d'aller vers un nouveau traité et qui serait ratifiable à peut-être. Pas aujourd'hui, hein, pas aujourd'hui. En tout cas, ça n'a aucun sens si on n'est pas passé par la phase du plan que nous avons esquissé.
Vous évoquez même l'hypothèse d'un référendum qui pourrait avoir lieu dans tous les pays européens le même jour.
Plus tard.
Un vrai référendum européen.
Plus tard, si on avait réussi... Non, enfin, simultané. Il n'y a pas un seul peuple européen, mais simultané.
Simultané, oui, c'est ce que j'entendais.
Si on avait réussi à franchir la pause pour que les gens écoutent, tiens, on nous écoute. Après la conférence qui restructure, qui repense, la subsidiarité, enfin traduite en acte, même si on distingue simplement entre l'harmonisation par objectif et l'ultra-réglementation détaillée qu'on abandonne. Bon, tout un processus, on décompte, c'est exactement le travail qui n'a pas été réussi avec la Convention, d'ailleurs, en fait. Et donc, à l'arrivée, oui, il y a peut-être une façon de remettre les peuples dans le coup avant qu'ils aient tout mis par-dessus bord. Moi, je ne l'écarte pas, mais je ne le propose pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui, mais pourquoi pas demain? C'est de l'européisme, ça, finalement, Jean-Dominique Giuliani.
Oui, mais vous savez, il va falloir vous y habituer. Les vrais Européens sont ceux qui essaient d'être pragmatiques et de trouver les formules pour relancer, réinventer, moi je dis pas refonder, mais à la limite, c'est un problème sémantique, un projet, je crois, auquel les gens sont attachés. Écoutez, je suis très frappé de voir dans les pré-débats présidentiels là qui se déroulent aujourd'hui un peu la confusion des esprits, y compris en France. Écoutez, les mêmes disent il faut rapatrier des compétences et il faut renforcer le gouvernement de la zone euro. L'euro, c'est la Banque Centrale Européenne, c'est le fédéralisme par excellence. Donc déjà, c'est contradictoire. Vous voyez bien que ça mérite un peu plus de réflexion sur savoir ce qu'on doit faire. Et moi, j'ai plein de sujets à proposer. Par exemple, quelle politique, on parle toujours d'une politique industrielle, quelle politique de concurrence? Est-ce qu'elle ne doit pas être d'abord centrée sur les grands concurrents mondiaux de l'Europe avant de regarder notre nombril?
Ça serait une correction majeure. Hein.
Voilà. Est-ce que, en matière d'immigration, les peuples, tous en Europe, n'attendent pas une réponse concrète, précise? Et s'ils savent que on a embarqué quatre capitales pour dire bon, mais ça y est, on va donner le même statut, on va traiter la demande d'asile dans les mêmes conditions, on va traiter avec le retour, il y aura un retour pour ceux qui n'ont pas d'asile, on l'a négocié avec le Sénégal, la Turquie, etc. Et si on arrive avec des résultats comme ça, ensuite tout est possible. Il y a un traité, des référendums, tout ce que vous voulez, mais il faut des résultats par objectif, et je suis d'accord là-dessus.
Il y a un point clarifié. Là, on est étonnamment d'accord, et je crois que c'est très encourageant. C'est l'assimilation abusive qui est faite maintenant entre gestion de l'euro et austérité. Il y a une partie de l'opinion qui croit ça. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a austérité? Ça se discute beaucoup, chiffres en main. Deuxièmement, c'est simplement le fait que l'Europe ne peut pas vivre éternellement au-dessus de ses moyens et à crédit. Et si on était endetté, non pas auprès de notre système commun, mais des Chinois, la réponse aurait été beaucoup plus dure. Donc, il faut casser l'idée démagogique qui se répand qu'en se dégageant du système européen, on va pouvoir creuser les déficits sans fin et sans sanction. Ça, c'est quand même une vision irresponsable qui a complètement pollué le débat actuel sur l'Europe et qui aboutit au fait qu'ils se disent que des choses sans queue ni tête dans les en politique intérieure.
Voilà, et sur la question de l'austérité, ça mériterait sans doute un autre débat pour mesurer la réalité ou pas de l'austérité. Ça dépend aussi des pays dont on parle. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Jean-Dominique Giuliani et Hubert Védrine, je rappelle, Sauver l'Europe aux éditions Liana Lévy. Cette émission, vous pouvez la réécouter comme chaque jour sur notre site internet France Culture à la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également la commenter sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Céline Leclerc, Cyril Baer, Isolte Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Bernard Laniel. On se retrouve demain à 18h20 pour voir s'il est possible de proposer aujourd'hui une expertise scientifique qui soit irréfutable. Et pour l'heure, c'est le sommaire de ping-pong avec Mathilde et Martin. Bonsoir à vous deux.